Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jésus est sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais juste qu'on revienne un peu sur ce passage et quelques points que j'aimerais relever. Et pour nous tous, hein, quel que soit notre âge dans la marche avec Dieu, un peu de piqûre de rappel. Juste avant ce texte, il est question de Jean qui parle et qui dit « Mais moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, il vous baptisera d'esprit. » Et c'est vrai, le baptême, ce premier mot que j'aimerais mettre au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui avec Monique, ce premier mot, c'est le mot repentance, faire demi-tour, un peu comme dans les Actes des Apôtres, temps de réveil, les gens entendent le discours, ils ont le cœur touché et ils disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire, quoi ?» Et Pierre qui leur dit « Repentez-vous, que chacun soit baptisé. » Donc repentance et baptême, ça va ensemble. Et cette repentance, c'est changer de trajectoire, changer de priorité. C'est un demi-tour, c'est une métanoïa, en fait, changer d'avis. C'est vraiment une conversion qu'on manifeste dans les eaux du baptême. Donc ça, ce n'est pas une fois dans la vie. Hein, les Juifs, ils nous apprennent bien. Tous les ans, ils ont le Yom Kippour. Tout le pays qui jeûne, qui prie, pardon Seigneur. Je crois qu'il y a un style de vie. La repentance est un don de Dieu, c'est aussi une responsabilité et c'est un style de vie. Donc ça commence très fort avec le fondement du baptême, mais il y a quelque chose où Dieu nous veut toucher régulièrement. C'est une affaire de cœur. Le cœur touché, ils disent qu'est-ce qu'on fera. Et le cœur de Monique a été touché. Vous savez, chez les Juifs, la marque de l'alliance, c'était la circoncision. Et la marque pour un chrétien, c'est le baptême. Et le Seigneur nous dit, si ton cœur est touché, garde-le, parce que les sources de la vie vont couler. Il y a beaucoup, question de beaucoup d'eau. Le baptême, c'est l'eau, les sources de la vie, c'est l'eau. Venez aux eaux, dit le Seigneur. Voilà. Et la repentance, j'aimerais souligner, s'il y a repentance, c'est parce qu'on a été au contact de la bonté de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui le dit dans Romains 2. Hein, dans Romains 2, 4, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas des lois et des règles qui vont dire « ce que tu as fait, c'est pas bien, repens-toi ». Non, non. La repentance, elle vient quand on est touché par la bonté de Dieu. Sinon, on rentre dans un légalisme, on n'a pas fini, mes amis. Et Dieu ne nous condamne pas, il nous aime et son amour nous pousse à la repentance. Et c'est l'amour de Dieu que Monique a rencontré. Et j'aimerais saluer tous ceux et celles qui ont été sur son passage, les témoins qui ont permis qu'elle soit là. Elle en racontera sûrement quelques mots. Mais j'aimerais vraiment dire que c'est votre jour aujourd'hui. C'est ton jour en particulier aujourd'hui. Et puis, voyez, cette bonté de Dieu se manifeste dans cette voix du Père qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Moi, je crois que là, il y a le fondement de la vie chrétienne. Le fondement, c'est l'amour de Dieu, l'affection. Et Monique, tu es la fille de Dieu, quoi. On te le dit, tout le monde te le dit, mais Dieu te le dit. Et ce fondement pour la vie chrétienne, c'est le fondement de tout. Et notre vie, c'est plus faire des choses pour lui faire plaisir. Mais on fait des choses parce qu'on se sait aimé. Et la dynamique, elle est complètement renversée. Et on répond à son amour. Donc c'est une alliance aujourd'hui, Monique. Hier, on a eu un mariage. C'était une alliance. Aujourd'hui, c'est un baptême. Décidément, c'est un gros week-end. Et c'est une alliance. Cette alliance, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Et la parole de Dieu, rappelle-toi, Romains 6, hein, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Hein, et puis ensevelis plus loin, Colossiens, dans le baptême, vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc il y a vraiment une marque de Dieu, ce n'est pas la marque des hommes, mais une marque de Dieu de résurrection. Et cette puissance de résurrection, ce qu'on a chanté tout à l'heure, elle vit en nous. Et elle continue à travailler. Et ça, mes amis, c'est la marche chrétienne. Il y a de la mort qui travaille, hein, c'est-à-dire voilà, on marche avec Dieu, il y a des choses qui meurent. Hein. Il y a des choix qu'on fait, ben, voilà, ça veut dire qu'on ne fait pas tous les choix. On dit non à certaines choses, on meurt un peu. Mais en même temps, il y a une vie qui vient et qui est magnifique. Donc la repentance, don de Dieu et une responsabilité. Et je crois qu'en prenant un baptême, on s'engage, on est responsable. On dit voilà, je veux faire ma part. Ma part, c'est répondre et c'est m'engager. Il y a un autre mot que j'aimerais souligner, c'est le mot, je pense, c'est de l'indépendance à l'interdépendance. En tant que baptisé, c'est ça. Nous sommes dans une culture individualiste. Une culture où, et même en tant que chrétien, ça peut être très individualiste. Mon culte personnel, ma foi personnelle, c'est Dieu qui me parle, etc. Et c'est très bien. Mais je veux dire, le baptême devant tout le monde ici, devant l'Église réunie, c'est-à-dire qu'on marque son appartenance à Dieu, donc je ne m'appartiens plus à moi-même. Mais en même temps, Dieu, c'est le corps de Christ aussi. Et donc, j'appartiens à la famille large, le corps de Christ. J'appartiens à la famille de Dieu. Donc ça, ce sentiment d'appartenance, c'est capital. Et la notion de baptême, c'est ça, appartenir au corps de Christ. Donc je lâche l'indépendance. 1 Corinthiens 12. Alors, vous savez, est-ce que vous savez quel est l'auteur favori de Monique ? L'auteur biblique favori. Quel est son dada ? Allez-y là, je sais que vous savez. C'est Paul. C'est Paul. C'est une fan de Paul. Alors il faut citer Paul. Hein. Et Paul, il nous dit ceci, 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc, baptême d'esprit, baptême d'eau, c'est la conscience qu'on rentre dans un corps. 1 Pierre 2, verset 9, 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Et je crois que le baptême, c'est la conscience qu'on fait partie d'un peuple. Ça me semble vraiment important. Ça veut dire que, quelque part, on a une liberté individuelle qui semble un petit peu réduite, parce qu'on ne s'appartient plus, mais en même temps, appartenir au peuple de Dieu et se laisser affranchir par celui qui nous attire à lui, c'est être vraiment libre. Et je crois qu'il n'y a pas de liberté tout seul. La vraie liberté, elle se vit quand on connaît le peuple et l'amour de Dieu et l'affection. Et j'aimerais dire que ce jour de baptême, ce n'est pas seulement l'engagement d'une baptisée, c'est l'engagement d'un peuple à affectionner le baptisé et à le suivre. Et on ne sait pas ce qui nous attend dans la vie. Mais je veux dire, l'engagement, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est non seulement témoins, mais on s'engage avec Monique dans sa vie de chrétienne. C'est un engagement. Donc ce n'est pas seulement spectateur. Nous sommes acteurs et nous sommes responsables. Tout le corps de Monique. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, on a été fait pour un seul corps. Et puis, j'aimerais, Éphésiens 2, vous avez, 2, verset 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc Monique, tu es une pierre vivante. Et mon souhait d'ailleurs pour chacun de nous, c'est qu'en tant que pierre, on trouve sa place dans la muraille, dans ce mur spirituel qui constitue la maison de Dieu. Souvent dans les maisons, il y a des briques qui manquent, il y a de l'air qui passe, et puis ça ne va pas. Et puis chacun dit, moi je veux être ça, je veux être ceci. Mais Dieu, tu dis, tu as une pierre, je t'ai taillé exactement pour ce mur-là, pour cette tâche-là, pour cette participation-là. Donc je crois que voilà, l'interdépendance, c'est savoir avec qui on est, et avec qui Dieu nous appelle. Et le but, ce n'est pas d'être une belle maison. Le but, c'est d'être une maison qui accueille l'Esprit, qui accueille la présence de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Alors déjà, Monique, chacun de nous, nous sommes des temples qui accueillons la présence. Mais chacun, on est une pierre pour un grand temple de son Esprit. Et vraiment, je rappelle, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Le jour où on a donné sa vie au Seigneur, on ne s'appartient plus. À quelle famille appartiens-tu ? Ça, c'est la question. À quelle famille appartiens-tu ? Le Seigneur est un Dieu de tribus, de familles. C'est un père. Et pour lui, le sens de la famille est vraiment très important. Nous ne sommes plus des individus. Nous sommes des membres d'un peuple. un peuple local, un peuple régional, un peuple national. Tout à l'heure, dans la louange, je regardais encore ce dessin de cette princesse qui danse. L'Église est la princesse de Dieu. Et elle est appelée à adorer le Seigneur sur la nation et à changer les climats. Maintenant, cette phrase étonnante, ce détail dans le texte qu'on a lu, lorsque Jésus est allé dans les eaux du baptême, rappelez-vous, les cieux se sont ouverts. Et quitte à me redire, à répéter, ces cieux qui s'ouvrent, ça nous parle de quelque chose de phénoménal dans la Bible. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une belle figure de style, tiens, c'est chouette, il y a un peu des choses du ciel qui... Non, non, non. Depuis le début de la Genèse, Dieu cherche à habiter la terre avec les hommes. Et voilà, le problème, c'est les hommes, quoi. Le problème, c'est ça, le péché, tout ça. Et donc, déjà dans Deutéronome 28, rappelle-toi ce qu'on a vu dans les cours, lorsque ce magnifique passage qui dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu », Deutéronome 28, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu seras béni à Colmar. Ah non, ça c'est le... Oui. C'est le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros menu bétail. Toutes ces choses seront bénies, ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Plus loin, l'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers, dans toutes tes entreprises, à ton travail, dur, dur, hein, mais le Seigneur ordonne la bénédiction aussi là. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, on voit dans l'histoire des percées de temps en temps. Avec des apôtres, avec des prophètes. Tout d'un coup, il y a une percée du ciel, il y a des anges qui viennent, il y a une délivrance extraordinaire. Mais jamais le ciel est resté ouvert. Ça a toujours des temps particuliers d'onction, d'ouverture de ciel, et le ciel se referme, et le péché recommence, et ça recommence, quoi. Et Dieu attendait un homme qui obéisse jusqu'au bout, totalement, pour que le ciel reste ouvert. Il n'y en a eu aucun. On prend Adam, on prend David, on prend Salomon, on prend les prophètes. Aucun n'a obéi parfaitement pour que la promesse de Deutéronome 28 s'accomplisse. Et Dieu a envoyé Jésus, son fils, qui est le seul à avoir obéi parfaitement à toute la loi. Huit jours circoncis, obéissance à ses parents. Il a tout obéi. Et le jour où il continue d'obéir et se fait baptiser, il y avait quelqu'un qui n'avait commis aucun péché. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Et il reste ouvert. Être baptisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie chrétienne ne dépend pas d'abord de mon obéissance. Elle est basée sur l'obéissance d'un seul, c'est le Christ. Un seul a obéi parfaitement. Et nous sommes, et tu es Bonique, au bénéfice de son obéissance. Et ça nous ouvre le ciel. Et mes amis, l'ennemi est toujours là à t'accuser, à dire « Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu n'as pas fait, c'est normal que tu ne sois pas béni, c'est normal. » Et nous, on est là, et on dit « Oui, c'est normal, c'est vrai, j'aurais dû prier 24 heures, là, j'y ai pas été, mince, alors j'aurais dû jeûner, etc. » Et on se condamne et on dit « C'est normal, le ciel n'est pas ouvert, c'est normal, je ne suis qu'un pécheur. » Mais il faut arrêter. Dieu dit « Tu n'es plus un pécheur, tu es gracié, tu es un enfant de Dieu qui pêche parfois, voilà. Mais ta nature a changé. » Et le ciel que Jésus a ouvert, il reste ouvert sur la vie de Jésus, tout le temps, tout le temps. Et en tant que peuple de Dieu, on peut revendiquer, parfois on ne le fait pas, malheureusement, mais ce ciel ouvert, et donc Deutéronome 28, rappelle-toi, c'est pour nous, c'est pour toi. Et ce ciel qui s'ouvre, moi je trouve c'est extraordinaire, le Père là qui discute, le Saint-Esprit qui vient, le Fils qui est là, c'est la Trinité, quoi. C'est une affaire de famille, hein, au fond. Et puis Dieu qui dit, je t'aime, je t'affectionne. Il a déchiré le ciel pour dire cette phrase « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Et quand on entend cette phrase du Père dans notre vie de tous les jours, Tu es mon fils, ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut bien dire que le ciel reste ouvert. Cette voix du Père ne peut pas s'entendre. Quand le ciel se bouche et quand on écoute l'accusation sans arrêt, Dieu a brisé, Jésus a brisé l'accusation. Et c'est ce qui nous fait nous relever. Tout à l'heure, on l'a chanté. Hein, je me relève, tu vois parfois mes échecs, Seigneur. Le véritable échec, c'est de jamais se relever. Mais l'affection du Père, elle est toujours là. Et quel que soit ce que tu peux vivre, ce que nous pouvons vivre, eh bien, cette affection, cette voix du Père et le ciel, il reste ouvert. Il reste ouvert. Donc ça, c'est quelque chose. Et je crois que dans notre vie chrétienne, mes amis, pensons le matin quand on se lève. Seigneur, merci pour le ciel ouvert. Merci pour ton obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à obéir, mais on n'obéit plus pour faire plaisir à Dieu. On lui fait déjà plaisir. Qui on est. Voilà. Et l'obéissance, c'est simplement on répond à cet amour. On ne peut plus faire autre chose. On répond. Par exemple, hier, ce couple, eh ben, ils ont obéi en se mariant, quoi. C'était pas très dur, hein. C'était pas très dur. Hein. Je donne ma vie, les promesses, c'est aller tout seul. Hein. C'était pas dur. Et aujourd'hui, ce baptême, c'est pas dur. Je suis pas là. Monique a dit, bon, ça va être dur, on va souffrir, on va être chrétien. Il va falloir obéir maintenant. Mais c'est pas ça. C'est la fête. La fête parce que le ciel est ouvert. Et parce que le Père, il dit, voilà, tu as toute mon affection. Et dans le Cantique des Cantiques, on voit cette alliance, ce prince bien-aimé qui dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ça c'est ce qu'il te dit ce matin. Ma belle, mon ami, viens. Tu as déjà entendu cette voix, mais ce matin particulièrement, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Les vignes exhalent le parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Se faire baptiser, il y a un moment, on est couché, hein, dans l'eau. Tu seras touché dans l'eau, sous l'eau. Je te laisse 10 minutes pour être sûr. Hein, pour être sûr. Voilà. Mais quand tu te... Rappelle-toi, quand tu te lèveras, c'est le Seigneur qui dit, lève-toi, ma bien-aimée. Lève-toi. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Se faire baptiser, c'est s'abaisser. Je m'abaisse, je serai tout mouillé, voilà, tout mouillé au milieu de tout le monde. Au secours, Seigneur. Je m'abaisse, mais Dieu me dit, lève-toi maintenant, ma belle, et viens. Ça, c'est fabuleux. Et puis, je termine en disant que il y a une image du baptême dans l'Ancien Testament. C'est tout un peuple, la mer Rouge. La Bible me dit que la mer Rouge, toujours Paul, décidément, Paul, il est formidable, Paul, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères ont tous été dans la nuée et que tous, ils ont passé à travers la mer et que tous, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Donc, cette figure du baptême, ce n'était pas pour qu'ils se rafraîchissent. Il faisait chaud, tout ça. Non, non. C'était pour dire, hé, la terre de Canaan, elle est là. Hein. Donc, la mer Rouge, moi, je te la fais passer, mais ce n'est pas pour que tu réjouisses. Tiens, chouette, on a passé la mer, super, tout. Non, non, mais attends, le but, c'est là, hein, c'est Canaan. Donc, le but de ta vie, Monique, ce n'est pas le baptême. Le but de ta vie, c'est rentrer dans l'héritage que Dieu a pour toi. Et ça, le baptême, c'est le fondement pour cet héritage. Et tu t'imagines tout à l'heure, quand tu seras dans l'eau, je suis dans la mer Rouge, avec tout le peuple d'Israël. Et la terre promise, elle est pour moi. Ça, c'est super. Alors, mes amis, Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc voilà, il y a des bonnes œuvres préparées d'avance. Dieu t'a taillé sur mesure pour des bonnes œuvres. Alors, des bonnes œuvres, c'est pas pour faire plaisir à Dieu, mais c'est parce qu'elles sont préparées pour toi, elles te correspondent à toi, et c'est pas difficile. Parce que ça correspond à qui tu es. Et ça, c'est le bonheur. C'est trouver la destinée que Dieu a pour nous. Voilà. Donc, les fleuves d'eau vive sont appelés à couler de ton sein, à couler de tout ton être. Et ce qui est merveilleux, je termine, dans ce baptême, dans le passage qu'on a lu, Dieu, il pourvoit à nos besoins fondamentaux. Regarde, l'acceptation. Hein, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Acceptation. Un, sécurité. Nul ne te ravira de ma main. C'est Jésus qui le dit. Nul ne te ravira de ma main. L'estime de soi, eh bien, il t'appelle par ton nom, il a donné sa vie pour toi. Et quelle estime, hein. L'amour, être aimé, je t'ai un amour, d'un amour éternel, Ésaïe 54. Hein. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8. Donc je crois que je mets l'accent sur le fait que tout sentiment dans notre vie, que l'on vit tous un jour ou l'autre, de rejet, de solitude, ne vient pas du Seigneur. Et ce sont des sentiments qui sont des ennemis, parce que Dieu te dit, moi je t'accepte, je t'aime. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, un projet de bonheur, te donner, non pas de malheur, un avenir, une espérance. Voilà pour ton baptême, Monique. Maintenant, on veut t'écouter. Et je sais que tu as préparé ton texte. C'est en 5 épisodes. Non, voilà. Je crois que c'est vraiment important. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps pour nous l'écrire. Et on est tout oui. À toi, Monique.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente aujourd'hui pour témoigner devant vous de l'œuvre de Dieu dans ma vie et de dire quel sauveur merveilleux j'ai trouvé en Jésus. J'ai toujours pensé que son prénom était Jésus et que Christ était son nom de famille. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à entendre parler de Jésus. J'étais avec mon frère, plus jeune que moi, de 3 ans. Nous faisions du vélo quand une voisine est venue nous dire en disant « Fils de Juif, foutez le camp d'ici, vous avez tué Jésus ». C'était dur d'entendre ce genre d'insultes à notre âge. Comment cette femme a-t-elle pu nous dire que nous avions tué Jésus ? C'était insensé. J'ai voulu comprendre en rentrant à la maison, j'ai tout raconté à mes parents. Ma mère, très en colère, est allée la voir en lui disant « De quel droit vous vous permettez d'agresser mes enfants ?» en leur racontant les choses horribles. En guise de réponse, la voisine lui a dit « Foutez le camp d'ici, retournez dans votre pays, vous n'avez rien à faire chez nous, vous avez tué Jésus. » La dame portait une croix autour du cou et ma mère lui a dit « Celui qui est autour de votre cou était juif. » Je ne croyais pas à ce que je venais d'entendre. Quand j'étais plus jeune, je savais qu'il y avait des juifs, je savais qu'il y avait des musulmans, mais les non-juifs et les non-musulmans, je ne savais pas comment les nommer. Alors je disais qu'ils étaient français. Moïse était juif, oui, mais pas Jésus. Lui était français. Car j'avais toujours associé la croix aux Français. En rentrant à la maison, j'ai demandé des explications à ma mère, mais elle n'a rien voulu me dire, ni mon père d'ailleurs. Nous étions juifs et Jésus n'était pas le sujet de conversation, seul Moïse et ses lois l'étaient. Nous n'étions pas vraiment pratiquants, nous ne faisions que les fêtes principales, comme Pessah et Kippour. Cependant, il fallait que je sache, je ne pouvais pas rester dans le flou. Mais personne ne voulait répondre à mes questions, alors j'ai laissé tomber. Quelque temps plus tard, j'ai eu l'occasion de voir le film de Jésus et Zeffirelli. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. J'ai eu très mal de voir à quel point cet homme avait souffert. J'ai interprété le film comme je l'ai compris et je me suis dit que la voisine avait raison. Les Juifs ont tué Jésus. Comme elle, j'ai détesté les Juifs, je les ai haïs. J'avais honte d'être juive. N'ayant personne avec qui partager mes ressentis, j'ai pris le dossier Jésus, je l'ai mis au fond d'un tiroir dans ma tête. J'ai fermé ce tiroir à clé et j'ai caché très précieusement la clé. Des années ont passé, j'ai grandi et la vie ne m'a pas fait de cadeau. Il faut dire que je ne croyais en rien et encore moins en Dieu. Et le drame que j'ai vécu n'a fait que confirmer que j'avais raison de ne pas croire en lui. En avril 2015, l'homme qui partageait ma vie depuis plus de 10 ans est décédé. Ma vie s'était arrêtée avec la sienne. Je voulais mourir car je ne concevais pas ma vie sans lui. Et pour tout dire, mon départ était prévu. J'avais tout programmé. J'aurais avalé une dose importante de somnifères et le tour était joué. Je lui avais promis le jour de ses obsèques. Malheureusement, j'étais lâche et le courage me manquait. Je me sentais très mal. Comment continuer de vivre ? La vie ne valait plus la peine d'être vécue. Je me disais que si Dieu existait, il ne m'aurait pas enlevée. Il n'a même pas empêché les Romains et les Juifs de tuer son pseudo-fils quand il a été crucifié. Et pourtant, il appelait son père avant de mourir, mais il a joué le sourd. Il l'a laissé mourir dans d'atroces souffrances. Alors comment moi, une toute petite personne, pouvait-il ou voudrait-il m'aider ? J'ai été hospitalisée 2 mois, et à la suite de cette hospitalisation, je suis allée en cure près de Toulouse durant 1 mois. En fait, cette cure était un prétexte. Je retardais au maximum mon retour à la maison. Revenir dans cet appartement était atroce. Tout me rappelait Bruno. Mais il n'y avait pas que cet appartement. Il y avait également les rues, les endroits, les lieux où nous allions ensemble. Comment faire face ? Comment continuer ? La famille, les amis, rien n'y faisait. Rien ni personne ne pouvait m'aider ni apaiser ma douleur. La phrase « Le temps guérira tes blessures », on me l'avait tellement dite que je n'y croyais plus. On ne pouvait pas guérir de la perte d'un être cher. On ne s'en relève pas. Je me suis isolée et j'ai fait le vide autour de moi. Je ne voulais voir personne. Je voulais rester seule avec ma souffrance. Des amis très chers à mon cœur en ont décidé autrement. Un jour, ils sont venus me chercher pour aller au marché de Noël. Je ne voulais pas sortir. Je voulais rester seule avec mes peines, mes douleurs et mes souvenirs. Mais étrangement, une voix dans ma tête me disait « Vas-y ». J'ai immédiatement pensé à Bruno. Je ne savais pas ce qu'il y avait après la mort et où il se trouvait à ce moment-là. Mais je pensais qu'il était peut-être là, veillant sur moi. J'ai donc accepté l'invitation. J'étais triste et malheureuse, car dans ce marché de Noël, tout le monde était joyeux. Je maudissais toute cette gaieté, ce bonheur, cette bonne humeur. Ce bonheur autour de moi me donnait envie de vomir et je commençais à regretter d'être sortie de chez moi. Je voulais rentrer, mais cette voix dans ma tête me disait « continue ». J'ai pris sur moi et j'ai continué ma visite dans ce maudit marché de Noël. Nous avions vu des crèches, toutes sortes de crèches, de très belles crèches avec beaucoup de lumière, sculptées dans un très beau bois. Mais moi, j'étais plutôt attirée par la plus simple et la plus petite et la moins jolie des crèches. Je la regardais sans la quitter des yeux, je ne voulais plus partir. J'étais là, face à elle. Elle n'était pas très belle, mais pour moi, c'était la plus belle. La plus vraie, car les autres étaient peut-être très belles, mais elles ne reflétaient pas la réalité. Jésus n'était pas né dans le luxe, mais dans la pauvreté, et surtout dans la plus modeste des étables. Pourquoi avais-je pensé à Jésus, tout à coup ? Tout m'était revenu en mémoire. Toutes ces questions sans réponse enfouies pendant des années dans un coin de ma tête avaient refait surface. Comment aborder ce sujet et avec qui ? J'avais besoin de savoir. Quelque chose me poussait à aller plus loin et encore une fois, cette voix revenait et disait « Vas-y, parle, c'est le moment ». Pourquoi ? Pourquoi cet intérêt soudain pour Jésus dont je ne connaissais absolument rien ? Je ressentais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. J'étais comme guidée, je devais suivre un chemin, mais je ne savais pas où il allait me conduire. Ce que je vivais était incompréhensible. Jésus prenait tout à coup beaucoup de place dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Mon cœur qui était brisé en un million de morceaux par ce drame, recommençait à vivre et à ressentir autre chose que la haine et la souffrance. L'amour avait de nouveau pris sa place, je me sentais comme apaisée. Cette mission, si je peux l'appeler ainsi, puisqu'il fallait que j'apprenne à connaître Jésus, m'a aidée à commencer à faire mon deuil. C'était insensé et dingue à la fois. Je voulais mourir, je souffrais de cette obsession pour Jésus. Je souffrais et cette obsession pour Jésus m'a dissuadée à faire ce stupide geste et à atténuer ma douleur. J'ai demandé à mes amis s'ils connaissaient Jésus. Ils étaient étonnés par ma question et m'ont répondu « Bien évidemment que nous connaissons Jésus, nous sommes chrétiens ». Ma seconde question était « C'est quoi être chrétien ?» Ils m'ont répondu « C'est appartenir à Jésus ». Comment peut-on appartenir à Jésus puisqu'il est mort ? C'était ma troisième question. J'avais des milliers de questions dans ma tête et je voulais des réponses. Alors j'ai pris cette fameuse clé, j'ai ouvert ce fameux tiroir dans ma tête et j'ai sorti le dossier Jésus tel que je l'avais rangé des années auparavant. Je ne savais pas par où commencer et mes deux premières questions étaient « Pourquoi les Juifs ont-ils tué Jésus ? Et pourquoi Dieu n'a rien fait pour le sauver ?» Tout ceci était très compliqué pour moi. J'avais du mal à tout comprendre, mais j'ai continué à poser mes questions. et j'ai fini par vider mon cœur et ma tête, et j'ai parlé, parlé et encore parlé sans m'arrêter. J'ai posé toutes sortes de questions, abordé tous les sujets qui me tenaient à cœur et qui avaient bien évidemment un rapport avec Jésus. J'avais l'impression que le temps m'était compté. J'avais un délai et il fallait que je pose toutes les questions que ma tête avait contenues durant toutes ces années. Je n'en avais jamais assez. Je trouvais toujours d'autres questions à poser. Je me suis sentie vidée, triste et en même temps heureuse. Je ressentais un sentiment d'amour. J'aimais cet homme. Il avait réussi à toucher mon cœur en si peu de temps. L'amour que j'avais pour Jésus m'aidait à apaiser mes douleurs et mes peines. J'aimais parler de lui. Je ressentais le besoin de le faire. Chaque fois que je voyais mes amis, il fallait que je parle de Jésus. Il était là en moi. J'avais besoin de tout connaître de lui. Un jour, ils m'ont proposé de venir avec eux à des réunions dans leur église, puis qu'ils se sont rendus compte que Jésus était un sujet qui me fascinait. J'ai accepté et j'ai aimé. Entendre le pasteur parler de Jésus avec fierté en criant haut et fort qu'il est ressuscité était un vrai bonheur pour moi. L'amour que je ressentais pour Jésus grandissait et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Je le dévorais. Je ne voulais plus m'arrêter. C'était mon livre de chevet. Je le lisais le soir avant de me coucher, le matin avant d'aller travailler. La Bible me parlait. Je ressentais chaque moment comme si je le vivais personnellement. Quand dans la Bible il était écrit que Jésus prêchait dans les synagogues, mon corps réagissait. Je me penchais en avant pour mieux le voir et mieux l'écouter. J'en éprouvais une immense fierté. Quand il était écrit qu'une femme qui souffrait d'hémorragie durant des années a guéri uniquement en touchant le pan de la tunique de Jésus, ma main s'était tendue d'elle-même pour aller toucher cette fameuse tunique. Au fond de moi, je ressentais et je vivais ce que je lisais. J'allais également au culte. Chaque fois que le message du pasteur portait sur Jésus, c'était une immense joie pour moi. Et j'ai commencé à croire en Dieu. Oui, c'est à ce moment-là que Dieu est entré en moi. Et j'ai cru en lui. Il a été là au moment où je voulais mourir, au moment où je ne croyais plus en la vie. Par la suite, ma vie ne tournait qu'autour et avec Jésus. Je continuais d'aller à toutes les réunions que le pasteur organisait à l'église, y compris au culte. Je vivais un truc de dingue. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je vivais tout à 200 à l'heure. Les questions fusaient dans tous les sens. Ma tête bouillonnait et j'avais peur qu'un jour, le couvercle saute comme une cocotte minute. J'avais cette faculté de tout retenir, ce que je lisais et ce que j'écoutais. Dieu m'avait greffé une carte mémoire dans le cerveau. J'emmagasinais des tas de choses. Je ne savais pas ce que représentaient l'Ascension et la Pentecôte. Je savais juste que ces deux jours étaient fériés sans connaître la signification. Je suis allée au culte le jour de la Pentecôte. Ça a été ma première révélation. J'ai vécu un moment inimaginable. J'ai écouté le pasteur raconter l'Ascension de Jésus et ensuite la venue du Saint-Esprit. J'étais comme un enfant à qui on raconte une histoire. Je buvais ses paroles. J'avais l'impression de vivre toute la scène. J'étais au premier plan. Je voyais tout et j'entendais tout comme si Dieu me disait « Tu as entendu, à présent regarde. Dieu m'a offert ce magnifique cadeau. » Le mois suivant, j'ai assisté pour la toute première fois à un baptême. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Mon cœur, mon âme et tout mon être ont été touchés, bouleversés. Dieu m'a laissé cogiter, cheminer. C'est à ce moment-là, à la Pentecôte et durant ce baptême, qu'il est entré une seconde fois en moi. Malheureusement, tout ce bonheur n'a pas duré. J'ai eu en quelque sorte une traversée du désert. Je n'arrivais plus à rien, je ne lisais plus la Bible, je n'allais plus au culte. Je passais mes journées à pleurer, en me demandant ce qui m'arrivait. Ce mal-être a duré environ 15 jours, mais Jésus m'a montré qu'il était là. Dieu m'a guidée vers un homme que je ne connaissais absolument pas, un missionnaire tzigane qui fait partie de la mission évangélique Vie et Lumière. Dieu sait à quel point j'aime les louanges. Et il m'a en quelque sorte incité à écouter les chants de ce missionnaire. Pour ce faire, il m'a guidée vers YouTube pour télécharger tous les chants le concernant. Pendant cette période sombre, Dieu m'a montré qu'il était là, avec moi. Il s'est servi de ce missionnaire pour le faire. Mon téléphone se mettait à chanter tout seul. Et chaque chant avait un lien avec l'état dans lequel je me trouvais. Mon téléphone était rempli de chants et même de chansons qui n'avaient aucun lien avec Dieu, mais seuls les chants de ce missionnaire étaient choisis. C'est difficile à croire, même pour un chrétien. Alors imaginez-moi ce que j'ai pu ressentir quand mon téléphone se mettait à chanter tout seul. On m'a dit « change de téléphone, tu dois avoir un problème ». J'ai changé de téléphone et rien n'avait changé. Mon téléphone chantait toujours, tout seul. Un jour, j'écoutais un chant de ce missionnaire qui s'intitule « Tu vis sans Dieu ». Moralement, j'étais mal, très mal. J'étais avec un ami. J'ai arrêté le chant, j'ai posé mon téléphone et je lui ai dit « Dieu m'a abandonné ». Au moment même où j'ai fini ma phrase, mon téléphone s'est mis à chanter cette fois, tout seul, un autre chant de ce missionnaire qui dit « Dieu est là ». Cet ami qui est pourtant chrétien n'en revenait pas. L'été dernier, je suis allée en Grèce. Dieu m'a montré encore une fois qu'il était là pour moi. Il y a eu un énorme incendie qui a fait plus de 100 morts et je ne savais pas si je devais y aller ou s'il était préférable que j'annule mes vacances. J'ai demandé à Dieu de m'aider et de me dire ce que je devais faire. Il m'a dit que je ne craignais rien et que je pouvais me rendre en Grèce sans difficulté. Savez-vous comment il s'y est pris ? Je suis secrétaire dans un cabinet d'avocats. Une ancienne cliente que je ne connaissais pas a téléphoné pour venir récupérer son dossier archivé. Elle parlait très mal le français. Je ne connaissais pas ses origines. Elle est venue avec un monsieur qui parlait également très mal le français. Elle m'a dit « Excusez-le, mais c'est un très grand avocat en Grèce. » Je lui ai dit « Ce monsieur est grec ?» Elle m'a répondu « Oui ». Je lui ai demandé « Ses origines à elle ?» Elle m'a répondu qu'elle était également grecque. Je lui ai dit « Mais c'est Dieu qui vous envoie. Je viens de demander à Dieu de m'aider et il m'envoie deux Grecs ?» Je leur ai raconté mon problème et ils m'ont rassurée en me disant que mon hôtel était situé très au sud et que l'incendie n'avait pas atteint la ville où je me rendais. Dieu a fait encore bien plus. Le jour de mon arrivée en Grèce, en quittant l'aéroport pour aller en direction de mon hôtel, je me suis malheureusement trompée de navette. Je m'en suis rendu compte après une heure de trajet. La navette était bondée. Personne ne parlait le français. J'entendais de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand et d'autres langues, mais pas un seul mot en français. De plus, il y avait écrit sur mon téléphone « pas de service ». Ce n'est pas le fait qu'il n'y avait pas de réseau, c'est qu'il n'y avait pas de service du tout. Je ne savais pas où cette navette me conduisait. J'ai paniqué, j'ai demandé à Dieu de venir à mon secours. Au bout de quelques secondes, je n'entendais plus rien. J'avais l'impression d'être seule dans la navette. Tout le brouhaha que j'avais entendu auparavant a disparu. Et dans ce silence, j'ai entendu un couple parler français. J'ai juste dit « Merci mon Dieu ». Ce couple français a pu me renseigner. Il m'a conseillé de téléphoner à mon hôtel. Je lui ai dit « Je veux bien, mais mon téléphone n'a pas de service, il ne fonctionne pas ». J'ai regardé mon téléphone et par miracle, il y avait du service. J'ai pu téléphoner. Dieu était encore là pour moi. J'ai choisi la Grèce car je voulais en quelque sorte marcher dans les traces de Paul, mon apôtre préféré. C'était ma mission, en attendant bien évidemment d'aller en Israël pour marcher dans celle de Jésus. Ma mission a pour moi été accomplie. J'ai visité Athènes et j'ai bien évidemment pu voir l'aéropage où Paul a prononcé son discours relaté dans les Actes des Apôtres. De retour en France, je me suis sentie complètement transformée. Ce voyage et ces découvertes sur Paul ont laissé des traces en moi. Je me suis mise à penser au baptême. Dieu a mis en moi cette idée afin qu'elle germe et qu'elle y prenne racine. Elle a travaillé en moi pendant plus de 15 jours et j'ai su que cela venait de lui, comme s'il me disait à présent que je t'ai tout montré, que je t'ai prouvé mon amour, à toi maintenant de faire de même et de venir à moi. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». Je suis allée vers lui et par sa victoire sur la mort, il a reconstruit ma vie. Il m'a libérée, délivrée de mes chaînes intérieures. Il m'a ressuscitée. Il est la lumière de ma vie, éclairant chacun de mes pas du chemin. J'ai reçu ce Christ d'amour qui a enlevé de mes épaules ce qui me faisait souffrir et il m'a donné sa paix. Aujourd'hui, j'ai accepté de passer par les eaux du baptême. J'ai conscience que je ne suis qu'au début d'un grand parcours avec Jésus. Je le reconnais comme mon sauveur et mon maître.